Loué le Seigneur pour cette conférence. C'est la suite de la conférence d'hiver. Nous avons lu Hébreux, pas juste parce que Jacques suit l'épître aux Hébreux, mais parce que le Seigneur veut continuer de nous parler au sujet de cette merveilleuse foi qui doit appeler en existence beaucoup de fruits et beaucoup d'œuvres de la foi. C'est pourquoi Jacques continue avec ce que nous avons déjà abordé pendant la conférence d'hiver. Il nous parle de la foi. C'est vraiment merveilleux comme ça a été dit hier. Jacques est un épître particulier dans la mesure où c'est si clair. Le texte est si clair. Mais cela dépend de nous, de la manière avec laquelle nous lisons. La personne, si nous avons le désir d'être transformés, alors c'est vraiment une parole agréable. Il y a beaucoup de croyants qui n'aiment pas tellement cet épître. Nous sommes aussi humains, nous aimons les paroles douces, les paroles agréables. Mais le Seigneur n'est pas ainsi, il nous parle de manière claire, de manière directe. Nous avons besoin d'une telle parole. À quoi est-ce que cela sert si le Seigneur nous donne des paroles douces et agréables et à rien qui change en nous? Et en fin de compte, comme Jacques l'a dit, nous nous trompons nous-mêmes parce que nous avons entendu beaucoup de choses, mais il y a eu peu de fruits. C'est pourquoi le Seigneur veut nous parler par cet épître, pour nous montrer de manière si claire ce qu'il veut faire avec nous. Et il veut aussi nous montrer le chemin. Hier soir, c'était bon de voir. C'était une parole vraiment clé pour moi. Sans épreuve, il n'y a pas de progrès pour la foi. Jacques commence de manière directe. Verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » C'est un début direct, très fort. Pourquoi? Parce que nous avons le désir d'aller de l'avant, de croître. Nous devons vraiment voir, garder le but devant les yeux. Comment pouvons-nous nous réjouir des épreuves? Mais maintenant, par le Seigneur, par la foi, parce que nous voyons le but, nous apprenons à nous réjouir même des souffrances. Comment nous pouvons faire cela en ayant le but devant nos yeux? L'exemple a été donné hier soir. Même lorsque nous faisons une formation, nous étudions dans un but précis, pourquoi est-ce que nous nous affligeons de telles souffrances? Parce que nous voyons le but qui est devant nos yeux. Nous savons que sans les épreuves du travail, nous n'allons pas passer le test de l'examen. C'est pourquoi nous devons aussi nous exercer à avoir le but devant les yeux. Ce qui est merveilleux, c'est que Jacques nous montre tout de suite aussi le chemin. Au verset 4, il nous montre le but. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et au verset 12, il nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Jacques nous montre directement le but pour recevoir la couronne de vie. Louez le Seigneur. C'est merveilleux, nous devons voir cela. Dieu aimerait nous donner à nous croyants la couronne de vie. Qui reçoit une couronne? C'est vraiment très parlant ici. C'est un roi. Personne d'autre. Une couronne est réservée pour un roi. Personne ne porte une couronne habituellement. En fin de compte, la récompense, c'est la couronne de vie. Jacques a eu la vision que Dieu veut faire de nous des rois. Nous avons eu de la communion dernièrement à ce sujet. D'un côté, nous sommes appelés à être sacrificateurs, mais d'un autre côté, nous sommes appelés à devenir des rois. Dieu a fait de nous aujourd'hui des rois et des sacrificateurs. C'est bien d'avoir l'appel d'être un roi. On ne peut pas prétendre dire que nous sommes appelés à être roi et puis maintenant ce sera automatique. Non, le roi, comme le sacrificateur, malgré le fait que nous ayons un appel si élevé, malgré le fait que nous avons déjà ce statut, nous devons parvenir à maturité. Dieu veut nous former. Lorsque nous voyons notre quotidien, nous réalisons que c'est vraiment notre expérience, que notre moi règne encore sur nous, notre chair. Nous devons vraiment apprendre à entrer dans le règne avec le Seigneur sur toutes ces choses. Cela nous montre que nous avons besoin d'exercice. Même un roi terrestre a besoin d'une formation. Être des rois avec Jésus-Christ. Certains ont la représentation que lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, il va juste nous transformer en un clin d'œil en roi. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole. C'est pourquoi Jacques nous dit ici que ces épreuves auxquelles nous sommes soumises, elles sont utiles à notre maturité. Nous aimons le Seigneur, mais si nous aimons le Seigneur, nous devons aussi apprendre à aimer les épreuves qui vont faire de nous des rois avec le Seigneur. Le Seigneur nous prépare aujourd'hui pour que nous devenions des rois qui vont régner avec lui dans le royaume à venir. C'est si merveilleux que Jacques nous montre directement le but ici. Notre but n'est pas d'aller au ciel, même si 99% des croyants croient cela. Ce n'est pas le but auquel la Bible nous appelle. Mais la Bible nous montre que le royaume de Dieu sera établi ici sur cette terre. Jésus-Christ va régner ici sur cette terre et pas dans les cieux. Il ne veut pas régner seul, mais il veut régner avec les vainqueurs. C'est le but des épreuves. Jacques 1, verset 18, mentionne encore une fois le but. Il dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Nous voyons ici que ce sont les prémices qui vont régner avec le Seigneur. Jacques 2, verset 5, il y a encore un verset semblable. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Louez le Seigneur, vous voyez combien Jacques a ce but devant les yeux. N'est-ce pas merveilleux? Dieu veut nous donner en héritage le royaume à venir. Le verset 2 nous parle déjà de cela. Ce but, nous devons vraiment l'avoir devant les yeux, spécialement lorsque nous nous trouvons dans toutes sortes d'épreuves. Comme cela a été dit hier soir, avons-nous la capacité de nous tenir dans les épreuves et dire merci Seigneur pour ces épreuves? Mais si nous avons le but devant les yeux, nous avons cette capacité-là. Merci Seigneur, parce que tu veux me conduire à maturité, alors tu me prépares des épreuves. Parce que tu veux faire de moi un roi, eh bien, je vais accepter aussi ces épreuves. Nous sommes, comme nous l'avons vu hier soir, des serviteurs inutiles. Mais toutefois, le Seigneur veut nous donner son royaume. C'est merveilleux. Louez le Seigneur. Si nous nous trouvons dans toutes sortes d'épreuves aujourd'hui, nous allons tomber dans des épreuves, certainement. Ayons ce regard sur le but. Hébreux 12, verset 2, nous avons vu cet hiver. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection, il dit en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous voyons ici que même le Seigneur a eu la capacité de traverser les souffrances parce qu'il avait un but glorieux devant les yeux. Même au verset 11, on parle de cela. Il dit qu'il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Nous devons vraiment avoir les regards sur ce qui vient plus tard. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Louez le Seigneur. Les épreuves sont là pour que du fruit puisse paraître. Les épreuves ne sont pas là pour nous faire trébucher. Le diable aimerait nous faire tomber. Mais les épreuves, selon le Seigneur, nous conduisent à la gloire, à la maturité. C'est le sens des épreuves. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous ne devons pas nous dire « Oh, je vais certainement tomber ». Ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu est que par l'épreuve, il veut susciter un fruit qui viennent de nous. Hier soir, cela m'a beaucoup encouragé, car Dieu va nous donner exactement l'épreuve dont nous avons besoin pour notre transformation. Il ne va jamais nous donner une épreuve qui soit trop haute ou trop difficile pour nous. C'est merveilleux. Nous ne devons jamais nous dire que nous n'allons pas y arriver. Nous devons vraiment apprendre à chasser ce genre de pensée, car Dieu nous donne toujours l'épreuve adaptée pour notre transformation, que nous puissions vraiment regarder au Seigneur pour arriver au but, afin que nous puissions devenir des rois avec le Seigneur. Ensuite, Jacques nous montre ce dont nous avons besoin absolument. C'est dans Jacques 1, verset 5. Là, il nous parle de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, peut-être que lorsque nous ne sommes pas dans l'épreuve, nous n'avons pas tellement une conscience qui nous manque de la sagesse. Certainement, nous disons « je maîtrise bien mon quotidien », mais au plus tard, lorsque nous arrivons dans l'épreuve, nous remarquons « oh, je manque de sagesse ». Je lis le verset 5 dans une autre traduction. C'est la nouvelle traduction évangélique qui nous montre que cette sagesse est étroitement liée aux épreuves. J'ai toujours vu ce verset 5 de manière isolée, mais ici, dans cette traduction, à partir du verset 4, mais la persévérance accomplit son œuvre. Si quelqu'un d'entre vous ne sait pas comment faire cela, c'est-à-dire cette persévérance, si nous ne voyons pas ce but glorieux d'être des rois avec le Seigneur, nous ne réaliserons pas que nous avons besoin de sagesse. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous réalisons que nous avons besoin de sagesse. Et la sagesse est autre chose que la connaissance. Nous pouvons avoir beaucoup de connaissances, savoir beaucoup de choses, mais cela ne veut de loin pas dire que nous savons ce que nous devons faire dans l'épreuve. Dans 1 roi 3, nous voyons que Salomon a prié pour recevoir la sagesse. Alors, ces deux femmes sont venues vers lui, il y en a un qui avait chacune un enfant, et un enfant était décédé. Et puis les deux se disputaient cet enfant. Et que fais-tu dans une telle situation? Tu sais qu'au moins une des deux est en train de mentir. Certainement, les deux ne disent pas la vérité. De quoi as-tu besoin dans cette situation? Tu as besoin de sagesse. Ta connaissance ne sert à rien dans cette situation. Là, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Et ça, c'est la sagesse. La sagesse signifie que dans chaque situation, tu sais ce que tu dois faire. C'est la capacité d'avoir les bons mots et la bonne attitude dans chaque situation. Ça, c'est pas donné. C'est pas inné. Et là, nous pouvons vraiment dire si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Nous devons vraiment confesser devant le Seigneur. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons accumulé beaucoup de connaissances au fil des années. Nous devons vraiment maintenant demander à Dieu cette sagesse. Parce qu'il y a un problème auquel nous sommes confrontés, comment nous gérons notre vie journalière. Il est vraiment très important de reconnaître notre manque ici. C'était aussi mon expérience souvent, lorsque l'épreuve est là, je viens au Seigneur et je lui dis, qu'est-ce que je fais là dans cette situation? Toute ma connaissance ne me sert à rien. Et la parole nous encourage. Nous devons vraiment être très encouragés ce matin. Pour demander à Dieu. Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et en allemand, c'est même généreusement. Il donne généreusement. Si tu demandes la sagesse à Dieu, il va pas te faire un reproche par rapport au fait que tu lui as pas demandé la sagesse avant. Peut-être que hier, tu étais insensé. Si tu es même sujet à un problème dont tu es responsable toi-même, le Seigneur ne va pas te faire de reproche. C'est ta faute. Ça, c'est notre nature à nous. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu ne fait pas de reproche. Si nous nous repentons dans une situation, nous disons au Seigneur, « Seigneur, je manque de sagesse. » Nous nous repentons d'un cœur sincère. « Père, donne-moi de la sagesse. » Le Père ne va pas nous faire des reproches pendant 10 minutes. Mais il va dire, « Enfin, il y en a un qui demande la sagesse. Qui vient, qui demande la sagesse. » Et la promesse qu'il y a ici, c'est « Et elle lui sera donnée. » Le Père aimerait tellement nous donner la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il veut que par l'épreuve, nous devenions vainqueurs sur l'épreuve. Mais sans sagesse, cela ne va pas fonctionner. Nous devons vraiment beaucoup lui demander. Le verset 17 va bien aussi avec cela. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant haut du Père des Lumières. Le Père veut nous montrer beaucoup, spécialement la sagesse, afin que nous puissions traverser l'épreuve. Et durant les semaines avant la conférence, je me suis exercé. Et je peux vraiment nous exhorter à nous exercer de saisir la sagesse du Seigneur dans chaque situation. C'est-à-dire chaque jour, dans tout ce que nous avons à faire. Ne pas penser telle chose et telle chose, j'ai pas besoin de la sagesse de Dieu, je peux les maîtriser par moi-même. Mais exerçons-nous en toutes choses. Même les choses auxquelles nous sommes habitués, le fait d'aller au travail, c'est un bon exercice de dire au Seigneur, demander au Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut pour accomplir mon travail aujourd'hui. Je ne veux pas juste faire mon travail, mais je veux gagner Christ. Pour que j'aie aussi les bonnes paroles au bon moment avec les personnes qui m'entourent. Ce n'est pas si simple. C'est pourquoi nous ne devons pas attendre pour nous trouver dans l'épreuve la plus difficile, mais nous exercer journellement pour demander la sagesse à Dieu. Et vraiment lui demander cette foi, cette sagesse avec foi. Si nous demandons la sagesse au Seigneur, nous devons aussi compter sur le fait qu'il va nous la donner. Et que dans la situation, nous puissions aller de l'avant. C'est si bon. Nous devons vraiment croire et ne pas douter. Amen. C'est si bon de voir que le Saint-Esprit est contenu dans le Saint-Esprit. Cette sagesse est contenue dans le Saint-Esprit. Ésaïe 12, verset 2. Il est dit, que la sagesse est comprise dans l'esprit. Ephésiens 1, 17. Paul dit, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ayons une telle prière les uns pour les autres. Que nous ne prions pas uniquement que nous allions bien, ou que ce problème, tel et tel problème, soit résolu, mais que nous ayons vraiment la sagesse qui nous soit donnée, un esprit de sagesse et de révélation. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que nous sortions tout de suite de la situation. Peut-être qu'il veut nous donner un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions vraiment savoir ce que nous devons faire, afin que de le reconnaître, de le connaître. La sagesse est là pour reconnaître, connaître Jésus-Christ toujours plus, même dans les situations quotidiennes. Nous devons prier, Père, comment est-ce que je peux gagner Christ dans mon travail? Comment est-ce que je peux gagner Christ dans le ménage, dans tous les gestes de routine? Je veux vraiment le connaître toujours plus. C'est vraiment le sens des épreuves, afin que nous puissions le connaître toujours plus. C'est pour cette raison qu'il y a un esprit de sagesse et de révélation. Colossiens 1, verset 9, il a aussi prié ça. Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous devons vraiment prier que nous soyons remplis. Pas que le Seigneur nous donne juste un peu de sagesse, mais que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Soyons vraiment remplis en connaissant parfaitement sa volonté. C'est écrit ici. Père, montre-moi dans cette épreuve, dans cette difficulté, comment je peux accomplir ta volonté. Et en fin de compte, Colossiens 2, verset 3, nous voyons ce que c'est que la sagesse. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En fin de compte, c'est le Seigneur lui-même qui est la sagesse. Et en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La seule question, c'est est-ce que nous voulons découvrir ces trésors, ces mystères? Est-ce que nous voulons les déterrer? C'est pourquoi demandons au Seigneur de manière riche, dans ces jours, nous puissions nous exercer directement, mais aussi dans l'avenir, de demander cette sagesse d'en haut au Seigneur, spécialement que par l'épreuve, nous puissions découvrir comment nous pouvons gagner Christ. Amen.